is it so hot in here? Aren't you hot?
I am now.
Salut, c'est Chanel Mentier, t'écoutes Balance Tombeau, le podcast qui kick les stéréotypes. On est en 2010 quand je fais la rencontre du groupe de copines le plus toxique du monde, ou en tout cas des séries américaines. J'ai nommé la très célèbre série Pretty Little Liars. Got a secret, can you keep it? Swear this one you say. Better lock it in your pocket. Alors pour te contextualiser un petit peu le bazar si jamais t'es passé à côté, PLL, parce que je suis une connaisseuse, donc j'utilise l'acronyme, c'est une série dans laquelle on suit un groupe de meilleurs amis, de quatre meilleurs amis, qui s'étaient séparés pendant un temps parce qu'il y avait eu des petits dramas, chacune avait eu des problèmes personnels, mais qui là reviennent et se retrouvent autour d'une problématique commune, elles se font harceler, voilà, par une certaine A. Est-ce que c'est Allison, leur meilleure amie disparue slash morte? On sait pas trop, mais ça c'est un plot de la série. Ou est-ce que c'est une autre personne qui se fait passer par A, on ne sait pas, et ça nous tient comme ça sur cette saison. Enfin, cette saison, ça fait cette saison, on a la réponse un peu avant, donc je t'avoue, pour être tout à fait transparente avec toi, que dès que j'ai su qui était A, j'ai laissé tomber Pretty Little Liars. Je ne suis pas allée au bout des sept saisons, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir critiquer une problématique que je trouve centrale à cette série, le personnage d'Aria. C'est donc l'une des quatre meufs, là. Et Lago, elle a fait un truc à l'époque, je me disais « Waouh, mais c'est incroyable !» Et aujourd'hui, je me dis « Mais quelle idée !» Premier épisode, première minute, on est vraiment sur le tout début de la série. Ça vient poser les bases de la toxicité future. Tu as donc Aria qui revient, elle était partie pendant un an avec sa famille, voilà. Les dramas dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas important pour l'histoire, bref. Mais c'est juste important de savoir qu'elle revient parce que elle va faire la rencontre d'un gars, d'un nouveau personnage qu'elle ne connaissait de fait pas avant, mais qui est sûrement arrivé pendant son année de voyage, là, dans un bar, le soir, la veille de sa rentrée. On est donc sur des lycéennes de genre 15-16 ans, dont l'une d'entre elles décide, la veille de la rentrée des classes, d'aller boire des pintes au pub du coin. Déjà, rien que là, j'y crois pas des meufs. Alors, je le conçois, hein, j'habitais pas du tout dans une grande ville quand j'étais au lycée, mais même, en fait, enfin, la veille des cours, tu fais ton sac, tu te couches tôt et tu fais en sorte de pas oublier ton réveil le lendemain, tu vas pas aller boire des pintes, non mais rien que là déjà, bon, bon. Je m'égare parce que c'est pas le fond du problème, il y a encore pire et ça arrive. Elle date donc ce gars, les hormones de l'adolescence faisant, ils vont se choper dans les toilettes. Ok, continuons, on va pas s'arrêter sur chaque problématique de cette série parce que sinon on va pas aller à la problématique principale. Le lendemain matin, Aria se réveille, se prépare pour aller à l'école, prend son petit bol de lait, ses céréales, son sac à dos et va comme ça direction le lycée. Quand, surprise, hasard de dingue, elle va à son cours d'anglais. Et qui est le professeur d'anglais? Ezra, le gars qu'elle a chopé dans les chiottes la veille au soir. Merci, au revoir. À partir de là, je pense qu'on peut qualifier cette série d'ultra problématique parce qu'on a donc, pendant l'intégralité des 7 saisons, un des arcs narratifs vraiment majeurs qui est la romance entre une adolescente et un professeur, une mineure, un majeur. Non, mais ça va pas du tout. Non, 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 ça ne va pas du tout. Et moi, à l'époque, j'étais genre, waouh, mais c'est trop génial, tu te rends compte. Elle est tombée amoureuse d'un gars plus vieux, c'est tellement romantique, c'est tellement ce que je veux dans la vie. Non, c'est pas bien, c'est pas normal. Ça peut poser vraiment beaucoup de problématiques. L'expérience n'est pas si romantique que ça. Et donc, au-delà d'être un arc narratif vraiment central dans cette série, ce couple-là, du coup, d'Aria et d'Esra, est montré comme étant le goal romantique ultime.
Bah ouais, c'est complicado quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui viennent se poser là avec cette représentation. Hein. Comme je disais tout à l'heure, du coup, la première problématique, c'est quand même la notion de pouvoir entre élèves et professeurs, entre mineurs et majeur. On a donc, si ce n'est déjà un adulte, une personne de pouvoir, parce que oui, un professeur, bah ça représente le pouvoir, qui a une relation avec une mineure, qui est donc son élève. Donc là, on a vraiment des couches qui viennent s'accumuler comme ça. Une mélasse de romantisation de la pédocriminalité, quoi. Ouais, je dis les termes, mais on est en plein dedans. Comment un gars, un prof adulte, peut avoir des vues sur une mineure? Elle est mineure, cette meuf, c'est son élève. À aucun moment, c'est censé te faire envie, quoi. Alors, soit, il y a certaines personnes qui viendront te dire qu'elle a peut-être pas vraiment dit son âge dans l'intro, là, dans la première scène, quand ils sont dans le bar et qu'ils vont se choper dans les chiottes. C'est pas une raison, ça vient pas du tout légitimer tout ce qui va s'en suivre comme ça sur cette saison. On marche sur la tête. Ça vient donc romantiser la pédocriminalité, ça vient complètement effacer la notion d'emprise, même limite, ça
vient la glamouriser, en fait. Ou en tout cas, à défaut de la glamouriser, ça la banalise complètement. Parce qu'à partir d'un moment où t'as un adulte qui a du pouvoir, qui est en relation vraiment intime avec une jeune adolescente, il y a, quoi qu'il arrive, une notion d'emprise. Il a donc le pouvoir, j'arrête pas de le répéter, mais il a aussi, du coup, la stabilité financière dans l'idée, il a les connaissances, il a de l'expérience, enfin, il a une vie, quoi, alors que l'autre, sa vie, elle fait que démarrer. Donc, ils sont vraiment pas sur le même pied d'égalité. C'est pas possible. Et romantiser ça, rendre ça vraiment le hit couple, le truc, vraiment le goal ultime, et ça va pas du tout. À travers ce couple-là, ce qui est dit, c'est vraiment que les meufs, elles doivent dater des gars qui sont plus vieux. Que les grandes différences d'âge ou que les grandes différences de moments de vie, c'est cool, c'est romantique, c'est un goal à atteindre. Et je vais aller encore plus loin, parce que vraiment, genre, ce couple, c'est catastrophique, mais à plein de niveaux différents. Quand je parlais tout à l'heure, du coup, de pédocriminalité, il y a cette question de fait de majeur-mineur, etc., dont j'arrête pas de parler, mais il y a aussi un deuxième truc, c'est que si pour les jeunes filles, ça vient idéaliser, du coup, le gars plus vieux, pour les mecs, ça vient idéaliser les filles jeunes. Il y a quelque chose un peu de bizarre comme ça, où du coup, pour dater un gars plus vieux, bah, ça te pousse de fait à être une femme, une adulte plus vite, ça te pousse vers ce stéréotype de la femme doit être une personne qui est responsable, qui est mature. Et de l'autre côté, du coup, on vient idéaliser en même temps un corps adolescent, une jeunesse, une naïveté. Et résultat, dans la vraie vie, t'as pas besoin d'aller chercher très loin pour voir que ce format de couple, disons, est toujours dans le même sens, est toujours très normalisé, jusqu'à bah, aller à des débordements, si on peut appeler ça des débordements, je pense que le terme est un peu léger. Alors déjà, notre bon vieux Vincent Cassel, qui n'arrête pas de dater des meufs qui ont 30 ans de moins que lui. DiCaprio, avec l'éternelle blague de « une fois que tu as 25 ans, et bah, tu ne pourras jamais espérer pouvoir dater Leonardo DiCaprio dans ta vie, parce que c'est un âge qu'il ne dépasse pas au niveau de ses meufs », sachant que lui, aujourd'hui, il a 51 ans, et que du coup, il a 24 ans d'écart avec sa meuf actuelle. Et du coup, quand on va dans les dérives de ce schéma-là, on tombe sur un cas qui est beaucoup plus actuel, qui est donc celui de Patrick Bruel, qui est donc présumé coupable de viol sur Flavie Flamand, lorsqu'elle n'avait que 16 ans. Et on a quand même l'avocat de Patrick Bruel, qui, pour le défendre en prime time à la télévision, a quand même dit que lors des présumés faits, Patrick Bruel avait l'air d'avoir 25 ans. Mais elle en avait quand même que 16, en fait. Donc ça ne marche pas. Donc on revient en plein dans l'image du couple entre Ezra et Arya de Pretty Little Liars. Et enfin, dernier exemple qui m'amène à ma transition vers ma reco culturelle du jour, qui est donc Judith Godrèche, l'actrice française, qui a été en couple. Vraiment, c'était officiel, voilà, tout le monde savait, c'était pas du tout quelque chose qui était caché, hein. C'était, voilà, quelque chose qui était complètement affiché, avec Benoît Jacquot. Elle, à ce moment-là, elle avait 14 ans, et lui, il avait 40 ans. Et ça, c'était normal. À l'époque. Alors, je dis bien à l'époque, parce qu'aujourd'hui, Judith Godrèche a fait toute une série qui s'appelle Icon of French Cinema, qui est dispo sur Arte.
Oui, bonjour, Judith Godrèche.
Qui ça ?
Judith Godrèche, elle revient du coup sur cette époque de sa vie durant laquelle elle était en relation avec Benoît Jacquot. Elle parle de la notion d'emprise, elle parle de tout ce que ça a impliqué dans sa vie bah, d'enfant, mais factuellement d'adulte. Et elle vient faire des parallèles comme ça avec le passé et le présent. C'est une série qui est fondamentalement importante, avec une histoire qu'il est vraiment nécessaire de porter pour justement contrebalancer des romantisations de couple avec bah, une différence d'âge énorme, une emprise, et venir expliquer que ces couple-là, c'est problématique. Ça amène à des situations de pédocriminalité, ça met les femmes dans des situations d'emprise énormes. Et là, je viens vraiment te raconter le fond de la série, mais ce qui est vraiment hyper bien avec Icon of French Cinema, c'est que Judith Godrèche a réussi à réaliser une série qui n'est pas étouffante, qui est vraiment hyper accessible, qui est très juste et très simple, parce que c'est vrai que dans ce genre d'histoire, t'as pas besoin d'en faire des caisses, tellement le sujet se porte lui-même, quoi. Icon of French Cinema, c'est vraiment un témoignage, mais c'est aussi plein d'espoir, plein d'amour. En plus de ça, c'est dispo sur la plateforme Arte, du coup, donc comme je disais, qui est une plateforme qui est gratuite. Donc vraiment, il n'y a pas un monde dans lequel tu ne vois pas cette série, quoi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve demain pour un prochain épisode de Balance ton mot.
Bisous!